Europe 1, 17h, 18h, clap.
And the Oscar goes to...
Et l'Oscar est décerné à...
Michelle Yeoh.
Michelle Yeoh.
For all the little boys and girls
pour tous
like
les petits garçons
tonight.
Et les petites filles qui me ressemblent et qui regardent la télévision ce soir. Ça, c'est un phare d'espoir qui ouvre la voie des possibilités. Cette statuette est la preuve que lorsque vous rêvez en grand, eh bien, les rêves peuvent devenir réalité. Et mesdames, mesdemoiselles, ne permettez à personne de vous dire que vous êtes allé trop loin, que vous en demandez trop.
C'était lundi dernier le discours poignant de Michelle Yeoh qui remportait l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Everything Everywhere All at Once. Et c'est tout un symbole puisque ça fait d'elle la première femme asiatique et seulement la deuxième femme de couleur après Halle Berry en 2002 à remporter l'Oscar. Sophie,
c'était un très beau discours que celui de Michelle Yeoh. Vraiment, ça m'a touché en plein cœur. Ils étaient effectivement préparés à gagner, mais est-ce qu'ils auraient dû gagner autant l'équipe de ce film ? Là-dessus, j'avoue que je suis un peu dubitative et même très déçue par cette cérémonie qui n'a quand même pas récompensé deux grands films, en l'occurrence Star et The Fabelmans.
Et on va y revenir justement, mais c'est vrai que c'était un joli moment, hein, Mehdi. Mais,
oui.
Y a
alors,
un mais.
Michelle Yeoh, je suis vraiment ravi qu'elle ait gagné, même si je lui préfère la performance tellurique de Cate Blanchett dans Tar. Mais voilà, pour sa carrière, pour sa grâce, pour ses rôles, je trouve que c'est beau, c'est fort, son discours était fort. Donc ça ne m'a pas dérangé, mais je rejoins.
Mais il y en a d'autres qui vous ont dérangé.
Voilà.
On y vient. Donc la 95e cérémonie des Oscars, c'est vrai que c'était riche en émotions cette année. Le discours de Brendan Fraser, Oscar du meilleur acteur pour The Whale, qui signait quand même son grand retour. Le sacre de Jamie Lee Curtis, hein, meilleure actrice dans un second rôle. On avait tous quand même la larme à l'œil. Et celui qui nous a le plus ému, je crois quand même que ça reste Kei-Yu Kan, longtemps oublié après ses rôles cultes lorsqu'il était enfant dans les Goonies ou encore Indiana Jones. Il est revenu en tête d'affiche avec Everything Everywhere All at Once et il gagne l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Écoutez son émotion.
Souvent, on dit que ce genre d'histoire, elle n'existe qu'au cinéma. Et moi, j'ai du mal à croire que ça m'arrive à moi. C'est ça, le rêve américain. Ma mère a 84 ans et je sais qu'elle me regarde à la maison. Maman, je viens de gagner un Oscar.
Bon, bah ça,
je vais pleurer là. Je vais pleurer.
Si tu veux, Laurie,
c'est insoutenable d'émotion.
C'est clair que c'est le moment d'Oscar. Oui. Voilà,
c'est aussi ce qu'on retiendra. Aime voir aux Oscars.
Exactement,
quand même, hein.
C'est le moment phare de la soirée. C'est très difficile de ne pas être ému parce que tout est vrai. Son body language, son souffle, ses silences, tout était vrai et on peut forcément qu'être heureux pour lui.
Et puis on l'a vu, le regard de Steven Spielberg posé sur lui, plein de tendresse. Et ça ne fait que rajouter à l'intensité du moment.
Puisqu'il a démarré aux côtés de Steven Spielberg. D'ailleurs, il y a la photo qui circule un peu partout sur les réseaux sociaux. Je vous invite à la regarder.
Photo prise par Guillermo del Toro.
C'est très drôle. Oh,
c'est ça qui est génial. Ouais.
Alors bon, effectivement, si on doit retenir un film qui a marqué cette cérémonie, vous l'aurez compris, c'est Everything Everywhere All at Once. Il a raflé 7 Oscars, dont ceux que l'on vient de citer, et surtout meilleure réalisation et meilleur film. Et c'est là peut-être qu'il y a débat quand même.
Ah oui, là il y a grande déception, c'est-à-dire ça aurait été très beau de récompenser Steven Spielberg pour The Fabelmans, qui est un grand
film sur le cinéma, sur
comment il est devenu réalisateur. Donc là, ils avaient quand même le choix, meilleur film, meilleure réalisation, comme ils le voulaient, mais il a été complètement et injustement snobé.
Moi j'ai un souci avec Everything Everywhere All at Once. Je trouve que alors, moi, je n'adhère pas au film, mais je salue l'audace, l'originalité, la créativité sur un budget pareil, proposer quelque chose d'aussi fou, c'est super. Qu'il soit sacré aux Oscars, c'est très bien, parce qu'il faut aussi faire la part belle à ceux qui sont un peu contre ce classicisme qu'on aime hollywoodien, avec les cinéastes dont tu parlais, Spielberg, Todd Field, etc. Mais 7 Oscars, Laurie, pour un film comme ça. Moi, je vous dis, dans quelques années, je pense qu'il n'en restera pas grand-chose. Et je sais que là, je vais prendre une volée de bois vert une deuxième fois sur les réseaux sociaux si les gens m'entendent. Mais il ne mérite pas cet Oscar. Mais il méritait clairement d'être mis en lumière.
Bah, bon, la part belle, comme tu disais, mais aussi la part des choses. Et je crois que ce jury n'a pas fait la part des choses. On peut récompenser un film comme celui-ci et en récompenser d'autres également. Là, c'est une espèce de sacre général, comme ça, comme s'il fallait une déferlante pour qu'on comprenne que le film vaille la peine d'être vu. Ça, je ne comprends pas. Et effectivement, oui, classicisme de Steven Spielberg, mais aussi audace de Damien Chazelle. Et puis aussi audace de Todd Field, qui à la base fait du cinéma. Enfin, il est dans. C'est du film d'auteur, clairement.
Juste
pour Tar.
Juste si possible, Laurie, deux dernières choses. C'est l'oubli stratosphérique de Babylone, qui est l'un des plus grands films de l'année.
Qui n'était pas nommé.
Voilà, pas nommé, même pas Margot Robbie, et même pas la musique. Et deuxième chose, moi, je te décerne pour le coup l'Oscar de la prononciation, parce que beaucoup de gens galèrent pour le titre, et tu l'as fait à merveille.
Pour une fois que je prononce bien un titre en anglais. Merci beaucoup, Mehdi. Bon, je vais vous remonter un peu le moral avec cette musique. Sophie pourrait presque nous refaire la scène du film.
Je suis prête à monter sur la table, la choré à la Uma Thurman, sans être Uma Thurman.
Ça donne envie de danser et c'est une valeur sûre. Et c'est bien sûr la musique culte de Pulp Fiction, le film mythique de Tarantino, Palme d'Or à Cannes à l'époque. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a appris cette semaine que Quentin Tarantino allait réaliser un nouveau film, son 10e. Alors chiffre 10, très important, parce que Tarantino a toujours dit qu'il ferait simple uniquement 10 films dans sa carrière, pas un de plus. En fait, en vrai, ça pourrait être son 11e, mais il compte Kill Bill 1 et 2 pour un seul film. Alors, est-ce son dernier, vraiment?
Sans doute.
Ouais, bon, je sais pas.
Il terminerait avec le début, c'est-à-dire c'est son modèle, Pauline Kael, qui est aussi un de mes modèles. Donc moi, j'avoue que je trépigne. Là, je compte les jours.
Oui, parce que alors, selon The Hollywood Reporter,
c'est l'histoire. En fait, ça va s'appeler apparemment The Movie Critic, et c'est sur l'histoire de cette critique célèbre, hyper influente, qui allait souvent à contre-courant de la doxa et des choix courants. Elle détestait, par exemple, Meryl Streep ou Clint Eastwood. Elle n'aimait pas les films de Kubrick. Donc, j'aurais aimé peut-être Tarantino sur autre chose que le cinéma après Once Upon a Time in Hollywood, mais pourquoi pas faire d'une femme puissante, en plus critique. J'ai juste peur que ça soit un peu un film de l'entre-soi, on sait jamais, mais avec Tarantino il peut peut-être l'ouvrir plus largement.
Oui, parce que c'est un récit passionnant. C'est un récit passionnant, c'est-à-dire cette fille qui a fait des brillantes études mais qui se galérait financièrement et qui à 30 ans est devenue critique par pur hasard, parce qu'on l'a attendue à la table d'un resto donner son avis sur un film. Elle avait une plume acérée, d'ailleurs je conseille vraiment à tous nos éditeurs et auditrices d'acheter les chroniques, hein. Ces chroniques qui vont être traduit en français chez Sonatine. Elle avait une plume incroyable et effectivement, elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. Il suffit de lire sa chronique du film La Mélodie du Bonheur, vous verrez.
Et ça va donner forcément un personnage féminin principal, donc haut en couleur. Le tournage devrait débuter à l'automne 2023. Donc d'ici là, ça nous laisse le temps de découvrir plein d'autres films au cinéma. Et ça tombe bien, puisque si vous avez suivi Mehdi, Sophie, ce week-end, c'est
le printemps du cinéma.
Du cinéma.
Effectivement, donc cette opération qui fait son grand retour du dimanche 19 mars, donc demain jusqu'au mardi 21 mars inclus. 5 € la séance pour tous les âges, pour tous les films. C'est le rendez-vous incontournable pour découvrir en salle donc tous ces films dont on vous parle chaque semaine. Est-ce que vous avez un film que vous avez envie de rattraper là au cinéma?
On les voit quasiment tous. Peut-être revoir, je sais pas, Babylone. Moi, j'ai envie de le revoir depuis que je l'ai vu la première.
Il est encore en salle?
Oui, il doit y avoir quelques salles. Je vais farfouiller.
Allez, on part maintenant du côté de Los Angeles rejoindre Didier Alouche, qui était présent cette semaine sur le tapis rouge des Oscars et qui revient pour nous sur les chiffres dans son JT d'Hollywood.
Europe 1. Clap. Le JT d'Hollywood. Didier Alouche.
Salut Laurie, salut à tous. Ils étaient donc plus de 18 700 000 Américains devant leur télé dimanche soir pour regarder les Oscars, soit 12% de plus que l'an dernier, le meilleur score depuis 3 ans. Que signifient ces chiffres? Déjà que la cérémonie était réussie, élégante, drôle, parfois émouvante et surtout sans scandale. Et ça fait toujours du bien. Ça aide aussi de parler aux gens de films qu'ils connaissent. La popularité des films était bien plus forte que les années précédentes, même le grand vainqueur Everything Everywhere All at Once, cet Oscar rappelons-le, est sorti il y a un an et fait parler de lui depuis. Il s'est inscrit dans le décor, il est devenu partie prenante de la pop culture du moment. La raison de ces si bons chiffres tient peut-être d'ailleurs aussi à ces deux mots, pop culture. Dimanche dernier, c'est la culture populaire qui a été récompensée. On pense ce qu'on veut d'Everything Everywhere, mais son côté pop est indéniable. Tout comme la victoire de Kei-Wee Kwan, dont ses rôles d'enfant sont inscrits dans la mémoire populaire américaine, ou celle de Jamie Lee Curtis, reine des films de genre dans les années 80-90, et il n'y a rien de plus pop que le cinéma de genre. Jamie Lee le sait bien, elle a remercié les fans de genre qui la soutiennent depuis toujours. Le cinéma américain a toujours été sauvé par la pop culture, nous venons de le vivre. Il a fallu la suite de Top Gun ou d'Avatar, deux séquelles d'icônes de la pop culture américaine, pour remplir les salles après le Covid. La pop culture a toujours été au secours du cinéma en Amérique. Elle est peut-être tout simplement aussi en train de sauver les Oscars.
Et c'est vrai qu'on aime beaucoup la pop culture.
On adore la pop culture, c'est d'ailleurs ce pour quoi on travaille en règle générale.
Tant qu'elle sert à un propos aussi, hein, parce que pop culture pour pop culture, c'est pas non plus la panacée.
Exactement, cher Mehdi Omaïs, ce n'est pas la panacée. En revanche, ce qui est la panacée, c'est de savoir que Jean Dujardin, dans un instant, nous parle de Sur les chemins noirs. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.
Une vraie panacée.
Et une vraie panacée suivie d'Alexandra Lamy et Lisa Azuelos qui vont nous parler de la Chambre des Merveilles. Restez avec nous, à tout de suite sur Europe 1.